Tout sur elle.
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 Tout
sur elle.
Tout sur elle.
Tout sur elle.
Tout sur elle.
Bonjour, je m'appelle Anna Roy et je suis sage-femme depuis 10 ans. Avec cette profession-là, on m'a projetée sans ménagement dans le monde des femmes. J'ai ri avec elles, j'ai pleuré avec elles. Je les ai vues enceintes,
triomphantes,
violées,
attendries,
victimes de violences,
cabossées,
émerveillées,
avortées,
donner la vie,
allaiter,
perdre leur enfant,
douloureuses,
désespérées,
réglées,
ménopausées,
infertiles,
stériles,
grandies,
changées,
riantes,
libres.
Mes patientes, leurs familles m'ont tellement donné qu'aujourd'hui j'ai envie de tout partager, de transmettre le savoir académique que j'ai acquis, mais aussi celui que j'ai reçu des femmes que j'ai accompagnées.
Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent, bref, pour tout le monde. Je suis Nina Pareja, je suis journaliste. Je réalise ce podcast signé Anna Roy et produit par Acna Productions. Salut Anna.
Bonjour Nina.
Aujourd'hui, dans Tout sur elle, on va parler d'épisiotomie et de déchirure. Et dans tous les cas, aïe aïe aïe, j'ai déjà mal à l'idée que tu m'expliques ce que ça veut dire. C'est deux choses différentes. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y en a une qui est choisie, qui est mécanique, effectuée par quelqu'un, et l'autre qui est naturelle, c'est ça?
Ouais, c'est un peu l'idée. On va parler de ça, effectivement, et de la différence. Et de pourquoi on fait des épisiotomies, pourquoi il faut en faire, pas en faire. Et aussi, la déchirure, est-ce que c'est si grave que ça quand elle est du premier ou deuxième degré? Pas si sûr. Et pas aïe.
Regarde, et pas aïe.
Ben non, moi j'ai eu deux déchirures, pas aïe du tout.
Pas aïe du tout.
Suturées avec de la dentelle par une sage-femme extraordinaire. On n'aurait même pas eu besoin de les suturer. J'aurais accouché aux Pays-Bas ou ailleurs, on n'aurait même pas suturé ces petites déchirures que j'ai eues. Et pas aïe. Je dis pas que je courais le 100 mètres après mon accouchement, mais ça de toute façon, même quand on n'a pas eu de déchirure, on court pas le 100 mètres.
Non, mais je crois que moi c'est l'idée.
Ah, qu'à mais c'est
cet
sûr.
Endroit-là.
Non, mais...
En fait,
non,
quand non. Tu l'as pas vécu...
Ah non, mais soyons clairs, mais même pour toutes les femmes, toujours, s'imaginer qu'une tête aussi grande ou des fesses aussi grandes sortent par ce petit endroit, c'est absurde. Et donc, l'idée que ça se rompe sous l'effet de cette poussée de cette tête, mais c'est effrayant. Mais en fait, on va voir qu'il ne faut pas que ce soit si effrayant. Par contre, l'épisiotomie, là, je suis plus sévère. C'est-à-dire que moi, quand j'en fais une, je suis absolument traumatisée. La plupart des praticiens que nous sommes, aller couper un périnée avec un ciseau chirurgical, on n'aime pas ça. Hein.
Et d'ailleurs, la définition de l'épisiotomie?
La définition médicale de l'épisiotomie, c'est une incision que l'on pratique au moment de l'accouchement, vraiment sur la toute dernière ligne droite. Hein. Une incision que l'on fait avec l'aide d'une paire de ciseaux chirurgicaux. C'est soit la sage-femme, soit le médecin qui peut la pratiquer. Et le but est simple, en fait, on sectionne de 2 à 4 cm à la fois le vagin, à la fois la peau de la vulve et à la fois des muscles périnéaux. Dans un but, c'est d'agrandir l'ouverture, le passage par lequel va passer la tête ou les fesses du bébé. Pour ce qui est de la déchirure, la définition médicale, la déchirure, c'est une lésion qui est provoquée par le passage de la tête ou des fesses du bébé ou des épaules d'ailleurs. Et les déchirures sont classées par degré en fonction de la sévérité de l'atteinte. Les déchirures du premier degré étant des déchirures extrêmement superficielles et les déchirures les plus graves étant, comme vous le savez peut-être, des déchirures qui vont atteindre jusqu'au sphincter de l'anus, donc des déchirures que l'on dit complètes. On appelle ça dans le jargon, vous avez peut-être entendu, périnée complet.
Actuellement, moi le chiffre que j'ai trouvé, c'est que un accouchement sur 5 donne lieu à une épisiotomie. Tu penses que c'est pas forcément justifié dans tous ces cas-là?
Ah, ce n'est pas justifié. On a fait des progrès, il faut quand même le noter. On était à 80% d'épisiotomie en 96. 2016, on est à 20%. Mais c'est vraiment un truc en médecine. Il faut qu'on demande pardon collectivement, nous, sages-femmes, nous, médecins, d'avoir fait trop d'épisiotomie. Le CHU de Besançon, qui est vraiment pionnier en la matière, est à 1% d'épisiotomie. Eux, ils sont dans le juste. Hein, moi, je dis toujours, quand je fais une épisiotomie, je suis dégoûtée, quoi. Enfin, genre, c'est affreux. Bon, j'en ai fait que 2 dans ma vie, hein, c'est pas énorme. Mais c'est genre, je suis mortifiée, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment parce que j'ai pas eu le choix. Mais c'est cette attitude-là qu'il faut avoir. En fait, il faut que les professionnels de la santé aient en tête, putain, j'ai fait une épisiotomie, pourquoi j'ai fait une épisiotomie?
Je suis un peu choquée parce que je connais pas énormément de mamans, parce que
je suis encore assez jeune et je ne suis pas maman moi-même, mais j'ai l'impression que, mine de rien, j'ai l'impression de connaître beaucoup de femmes qui ont eu une épisiotomie, que c'était horrible et que c'est une pratique courante, et j'en reviens pas qu'en fait ça serve pas autant, quoi. Je comprends pas. Pourquoi on fait ça?
Parce qu'il y a toute une génération de sages-femmes et de médecins qui ont appris comme ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment pensé, et c'est là où on peut tempérer le propos, c'est de dire, on a vraiment pensé que c'était mieux. On s'est planté, mais on a pensé que ça protégeait des déchirures et des machins. En fait, on s'est complètement planté, on s'est trompé. Mais ça, je pense qu'il faut savoir le dire aux gens. C'est dire, bah, voyez, on a été crétins, en fait, en quelque sorte. Mais on l'a pas fait parce qu'on était méchants. On pensait vraiment que c'était mieux. Que ça protégeait des déchirures graves, des prolapsus, des machins. Et donc, on en a fait. Sauf qu'à mon avis, on s'est pas interrogé suffisamment vite sur le fait que, c'est pas sûr quand même, parce qu'il y avait d'autres pays étrangers qui nous disaient wow, les épisios, calmos. Là, on n'a pas été bons. Mais effectivement, il faut faire un mea culpa. Tu sais, Nina, on n'est pas Dieu, on n'est pas des robots, on se plante.
Du coup, dans les 1% de cas, ou peut-être un peu plus, enfin, dans les cas où c'est nécessaire, concrètement, on a besoin d'ouvrir. Parce que sinon, le bébé pourrait pas passer?
C'est plutôt parce que, en fait, le bébé, il y a une partie de sa tête dehors, toute petite partie, et il montre qu'il a des altérations de son rythme cardiaque, et il nous dit, il faut que je sorte, quoi, il faut que je sorte vite. Et c'est pour éviter d'entreprendre des gestes de réanimation ou d'avoir à secourir ce bébé de façon plus avancée. Donc, en fait, quand on coupe, hein, parce que c'est donc, on prend un ciseau chirurgical, la sage-femme ou le médecin, peu importe, et on coupe de façon latérale, hein, pas vers le bas, et on va couper sur 3-4 cm, ça dépend, on va couper la peau, le vagin et les muscles. Et donc ça va libérer la tête. Donc effectivement, quand l'indication est bonne, bah ouais, c'est super. Mais c'est rare.
Et du coup, ça veut dire que si on sent que ça va pas passer, plutôt que de faire une épisiotomie, il vaut mieux faire une césarienne?
Ah non! Non, Nina, si. C'est-à-dire que la plupart du temps, ça se déchire.
Et c'est normal que ça se déchire?
Mais bien sûr! Alors ça dépend. Il y a des femmes qui vont avoir beaucoup de chance et qui n'auront aucune déchirure. Et puis il y a des femmes qui n'ont pas de chance, comme moi, qui ont des qualités de peau un peu médiocres. Eh ben ça va se déchirer.
Et il vaut mieux une déchirure qu'une épisiotomie?
Ah, c'est sans comparaison possible. Bah si, parce que la déchirure, souvent, c'est beaucoup plus petit. Ça ne concerne que soit le vagin ou soit la peau. Et surtout, ça déchire dans le sens des fibres. C'est tellement bénin qu'il y a beaucoup de pays, comme l'Allemagne, par exemple, le Royaume-Uni, qui suturent quasiment pas. Tellement, en fait, ça se remet bien. C'est de la muqueuse, souvent, qui est impliquée, et ça se cicatrise très bien. Nous, on fait le choix de suturer quasiment systématiquement. Moi, je trouve pas ça idiot, pour le coup. Mais c'est vrai que ça cicatrise très, très bien. La déchirure, je vais pas dire que c'est rien, parce qu'il y a différents degrés. Hein. Il y a des déchirures très superficielles. Il y a des déchirures qui font chier, vraiment. Mais enfin, la plupart du temps, c'est des déchirures superficielles.
Donc moi, j'avais plein d'a priori et je pensais qu'une déchirure, c'était très très grave et qu'une épisiotomie, ça, justement, c'était préventif de ces déchirures très très graves. J'avais une image, mais quasiment, de morsure d'un truc atroce. Je pense que je suis sûrement pas la seule à avoir cette image-là. On se fait des films, on est d'accord?
On se fait complètement des films. La plupart du temps, on a une déchirure, mais cette déchirure est ultra bénigne. Et grosso modo, si on a vraiment pas de chance parce que le bébé va pas bien, on a une épisiotomie. Ou alors, on n'a vraiment pas de chance et on a une déchirure sévère parce que le bébé était trop gros. Mais dans la plupart des cas, on a une déchirure et cette déchirure est bénigne. Enfin non, c'est pas vrai, parce qu'il y a quand même des endroits où ils continuent à faire des épisiotomies comme on va acheter une baguette de pain. Hein, il y a encore des endroits où on fait trop d'épisiotomies.
Anna, là, t'es en train de m'expliquer qu'en fonction de là où on accouche, on va être plus ou moins bien reçu ou plus ou moins bien traité?
Oui, tout à fait. C'est très choquant pour les gens qui nous écoutent, mais en même temps, prenez ça comme une chance de l'avoir entendu. Il y a vraiment, effectivement, aujourd'hui des maternités où ils ont des taux d'épisio à 40%, alors qu'à Besançon, on vient de le dire, mais dans plein d'autres maternités hein, françaises, heureusement, on est à des taux extrêmement bas, en dessous de 5%. Donc oui, ça dépend vraiment de l'endroit où on accouche. Et pour moi, ça peut même être un motif de changement de maternité. Je m'explique. Vous êtes enceinte, vous avez une consultation de grossesse, vous leur posez la question, alors vous, quelle est votre politique sur l'épisiotomie? Puis on vous dit, nous, on trouve que c'est très bien, on en fait beaucoup, blabla. Bon, moi, personnellement, Anna Roy, sage-femme, j'aurais changé de maternité. J'aurais dit, écoutez, très bien, vous faites ça, moi, je vais ailleurs.
Mais toi, quand t'avances des chiffres, telle maternité a un taux d'épisiotomie, ça veut dire qu'ils sont accessibles, ces chiffres?
Non, pas vraiment. C'est ça, le problème. C'est pour ça que j'aimerais pouvoir vous dire, vous consultez un site internet et là, vous allez savoir exactement le taux. Le taux, il faut que les maternités acceptent qu'il soit communiqué. Il y en a certaines qui le communiquent, mais d'autres pas du tout. Donc, c'est pour ça, c'est intéressant de leur demander. Et par exemple, je vais
prendre des exemples très concrets, par exemple une maternité comme les Bleuets à Paris où j'ai travaillé, on avait un taux d'épisiotomie qui était ridiculement bas, et donc pour nous en consultation c'était très facile de dire « bon écoutez, nous on n'en fait pas, sauf quand le bébé va mal, c'est-à-dire c'est extrêmement rare ». Si on vous répond ça, c'est que c'est OK. Par contre, si on vous dit « Ah non, nous, pour nous, il faut faire des épisiotomies parce qu'on estime que c'est bien », là, attention, et je vous dis encore, ça peut être un motif de changement de crèmerie. En maison de naissance et en accouchement à domicile, je tiens à vous le dire tout de suite, pas besoin d'avoir cette crainte-là, les sages-femmes ne font pas ou extrêmement peu d'épisiotomies. Donc la question ne se pose pas dans ces structures. Enfin, dans ces structures. La maison, ce n'est pas une structure, mais vous avez compris.
Comment on la pratique, cette épisiotomie ? Enfin, est-ce qu'on est anesthésié ? On est sous péridurale ? Comment on en arrive à dire à une femme, voilà, on va avoir besoin de vous ouvrir, comment ça se fait, comment ça se pratique, quand on fait ça bien?
Alors là, tu poses des questions hyper intéressantes. Si pendant le travail, tu as eu un super rapport avec ta sage-femme et que la sage-femme a eu le temps de t'expliquer, par exemple, là, si j'avais le temps d'expliquer à ma patiente tout ce que je viens de te dire, c'est-à-dire, ben voilà, moi je déteste, ça me mortifie, c'est l'enfer si j'en fais une, mais bon, si le bébé va pas bien, je la fais. La nana, elle a confiance. Donc en fait, elle va même pas se poser la question de savoir s'il va y avoir une obtention de consentement, tu vois. Par contre, effectivement, c'est pas ce qui se passe la plupart du temps. Et donc, alors, est-ce qu'il faut demander avant de faire une épisiotomie dans les livres? On va dire oui, parce qu'effectivement, il faut obtenir le consentement de la patiente. Seulement, le problème, c'est que quand on est en train d'accoucher, dire là, je vais te trancher le périnée tout de suite maintenant. Est-ce que t'es d'accord? C'est chaud, hein. Donc, à mon avis, il vaut mieux plutôt que d'arriver à ces trucs-là qui sont pas souhaitables, c'est-à-dire en dernière ligne droite où ça va être vraiment dur pour tout le monde. Moi, je dis. Posez la question à la sage-femme qui sera là pour votre accouchement. Ayez une discussion très claire avec elle sur ce qu'elle pense, elle, de l'épisiotomie et comment elle envisage cette pratique.
Quand il y a épisiotomie, quand il y a déchirure, on a commencé à l'évoquer. Qui est-ce qui referme? Est-ce qu'il faut refermer? Comment on suture? Quand? Tout de suite après l'accouchement, quelques jours après.
En fait, donc, l'épisiotomie ou la déchirure a lieu, le bébé sort. On s'occupe d'abord de la sortie du placenta, mais du placenta, nous en reparlerons. Et après, une fois que le placenta est sorti, bah, effectivement, il faut qu'on fasse de la couture. Que ce soit une épisiotomie ou une déchirure, ne change pas grand-chose à l'affaire. Ça prend, on va dire, entre 10 et 30 minutes. Et alors, il y a un truc que vraiment je vous conseille, c'est que souvent, en fait, on en a ras-le-bol. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais le bébé est né, le placenta est sorti, on est juste, ne me touche plus quoi, surtout pas là, en bas. Ah, touche pas à ma vulve, j'en peux plus. Et il faut pourtant pas montrer de réaction d'impatience, parce que, en fait, la sage-femme, si elle sent que vous en pouvez plus, ou le médecin, bah évidemment, elle va vouloir faire hyper vite, etc., et elle va vous faire un effet rôti de porc. Je dis ça pour que ce soit particulièrement l'effet ne serré. Donc il faut vraiment être cool, dire, ok, essayez de se détacher de cette partie, juste le temps qu'on fasse la suture. Se détacher de cette partie, ça ne veut pas dire accepter la douleur. En aucun cas, vous devez avoir mal quand on suture. Hein, ça, c'est clair. Mais en tout cas, il ne faut pas montrer de réaction d'impatience, sinon l'opérateur va se dépêcher et ça, c'est la cata, quoi.
Et aussi, il y a une pratique qui est absolument horrible, qui s'appelle le point du mari. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et pourquoi c'est horrible ?
Bah, alors ça, c'est une mutilation sexuelle grave qui doit être condamnée par la justice. En plus, c'est complètement con, je vais vous expliquer pourquoi. Le point du mari, c'est le fait de faire un point de suture de plus, c'est-à-dire que l'orifice vulvaire soit plus fermé qu'avant. Mais c'est complètement con, parce que quand la tonicité d'un vagin, que le fait que le vagin soit bien musclé, c'est le périnée qui fait ça, c'est pas l'orifice vulvaire. Donc ça fait mal, c'est mutilant et c'est con. Alors là, je comprends même pas qu'on puisse faire ça. Ça, c'est des gens qui doivent être condamnés, je sais pas, moi je comprends pas ça.
Concrètement, le point du mari, c'est ça, un geste qui n'est pas reconnu médicalement, mais qui pourrait être pratiqué par un chirurgien, un obstétricien, qui consiste à recoudre, que ce soit une déchirure ou une épisiotomie, avec des points de suture supplémentaires. Et derrière cette pratique, il y a l'idée que le vagin, après l'accouchement, va être béant, qu'il ne retrouvera pas son tonus, etc. Cette idée-là, Anna, est-ce qu'elle est fondée sur une portion de vérité ?
Cette idée-là, là je me calme, vous voyez, j'essaye de me calmer, et c'est pas con, c'est monstrueux. Et elle est pourtant très très ancrée chez les femmes, et chez les hommes, et chez tout le monde en fait. Et je pense que ça vient, il faudra un historien pour le dire, de cette espèce de dichotomie, la maman et la putain. À partir du moment où une femme est une mère, alors elle est disqualifiée d'entrée de jeu pour la question des relations sexuelles. Et effectivement, dans cet imaginaire-là, on dit, Oui, bah, de toute façon, elle a un périnée, tout ça, c'est tout mou. On sent plus rien, il n'y a plus de sensation pour l'homme. Voilà, c'est une zone de désertification qui mérite plus l'intérêt. Putain, mais là, je le dis et j'assume ma vulgarité, c'est faux. Et faux, et archi faux, et con, et malade. Et vraiment, c'est grave, en fait, de dire ça. Je connais 10 milliards de femmes qui ont des périnées bien plus extraordinaires après avoir accouché, y compris de 5 enfants. Périnée, tonicité du périnée, appréhension de sa vulve et de son sexe, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir eu des enfants. On peut avoir, et je vais être hyper caricaturale, on peut avoir 20 ans et voilà, et avoir un périnée extrêmement ramolli et extrêmement défectueux, et avec lequel en plus on n'arrive pas à se connecter, dont on comprend rien. Et à l'inverse, avoir, je dis n'importe quoi, eu à 55 ans et avoir eu 5 enfants, et avoir le périnée, mais de un feu de Dieu. Donc il faut vraiment sortir de cette tête-là. C'est pour ça que cette histoire de point du mari, putain, mais c'est con, parce que ça présuppose en fait que de toute façon, le périnée est foutu, que de toute façon, cette zone-là est foutue, donc on va essayer de faire quelque chose en mettant un point. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça me révulse. Moi, je peux vous le dire, ce que je vois, c'est qu'il y a plein de femmes, après leurs accouchements, qui du coup appréhendent beaucoup mieux cette zone-là, et waouh ! Et qui ont une vie sexuelle bien plus épanouie qu'elles l'avaient quand elles avaient 20 ans.
Il y a aussi des personnes qui pensent que cette histoire du point du mari n'existe pas. Que c'est faux, c'est quelque chose dont on parle, mais c'est un stéréotype, un cliché ou...
Mais non, mais moi, je faisais partie de ces gens qui pensaient ça. Moi, j'ai fait mes stages dans des grandes maternités publiques parisiennes. Je l'affirme, je ne peux pas mentir, je n'ai jamais vu de point du mari. Et depuis, parce que j'ai parlé déjà ça plusieurs fois, j'ai reçu des patientes qui se sont adressées à moi pour essayer de résoudre des cicatrices qui étaient vraiment très difficiles, donc qu'il a fallu masser, dont il fallait s'occuper. Et ben oui, ça existe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je peux pas... oui, ça existe. Ça existe, ça paraît fou, mais ça existe. Alors, est-ce que c'est fait ? Moi, la question que j'ai, c'est que j'aimerais bien interviewer, peut-être qu'on le fera, un gynécologue... Alors, parce que peut-être il y a des sages-femmes qui le font, mais il me semble plutôt, en tout cas moi, ce que j'ai eu, c'était plutôt des gynécos, je suis désolée, hein. J'adore les gynécos, j'ai plein d'amis gynécos, c'est pas la question. Mais plutôt des gynécologues d'un certain âge, est-ce qu'ils ont la conscience vraiment qu'ils le font, ou est-ce qu'ils le font parce qu'ils se disent, de toute façon, c'est mieux serré, ce sera mieux pour tout le monde ? Ça, je sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de criminel derrière ?
Dans les quelques... Enfin, il y a quand même eu
en
des témoignages
cas,
de femmes...
En tout cas, ce geste-là est criminel, parce que c'est une mutilation... sexuelle, enfin, ça c'est aux gens qui font du droit de le caractériser, c'est pas à moi bien sûr, c'est peut-être pas le bon terme, tout ça, mais en tout cas, on peut pas faire ça, hein, on peut pas faire ça.
Et puis de toute manière, il y a quand même de nombreux témoignages de femmes qui parlent aussi d'avoir entendu des choses comme « Ah bah je vais serrer un peu plus, vous allez voir », ou il y a eu des témoignages comme ça, donc on a tendance quand même à les croire, mais c'est vrai que ça paraît tellement fou, on préférait se dire que c'est irréel, quoi.
Mais après, il faut rassurer les gens, c'est quand même rare. Moi, j'ai vu des milliers, des milliers, des milliers, des milliers d'accouchements. Vous voyez, je ne l'ai pas vu en action, je veux dire, faire. Après, quand même, il y a un propos que je voudrais tempérer. C'est-à-dire qu'un accouchement, il ne faut pas non plus nier que ça n'étire pas les muscles du périnée. Hein, et que donc, il peut y avoir un certain relâchement. Mais que d'abord, les muscles du périnée sont faits pour s'étirer et revenir à leur état normal. Et qu'en plus, grâce à la rééducation du périnée qu'on propose en France à toutes les femmes, voilà, il n'y a plus d'enjeux, il n'y a plus de problèmes.
Quand on a eu la chance que sa sage-femme, son médecin, etc., ne fasse pas n'importe quoi en termes de suture, fasse ça bien, comme la plupart du temps. Comment, en tant que femme, on favorise une bonne cicatrisation ? Comment on fait en sorte que, bah, si on a dû subir une épisiotomie ou si on a eu des déchirures, tout ça, ça se répare le mieux possible ?
Ouais, alors là, pour le coup, moi, je suis pas comme les autres professionnels disent. Les autres professionnels de la périnatalité disent souvent « Oh bah, ça se rince à l'eau, ça se sèche et basta ». C'est vrai que mon expérience en ville, où moi j'ai fait énormément de suivi après, moi j'ai quand même tendance à dire, attention, c'est quand même une plaie chirurgicale, hein, vous avez des points de suture, et c'est une plaie chirurgicale dans une zone qui reste tout le temps humide, parce qu'il y a les saignements, et qui a une serviette hygiénique. Donc non, moi je serais assez chiante, c'est-à-dire, franchement, lavez votre cicatrice 2 fois par jour à l'eau et au savon, enfin un gel qui est fait pour, séchez bien en tamponnant avec une serviette propre qui ne fait que ça, hein, pas la serviette qui sèche les pieds, ou même ouais, vraiment un truc qui est propre, quoi. Et faites-la surveiller par une sage-femme à la maison une fois par semaine, 2 fois par semaine. C'est prévu par la Sécurité sociale. Ça, c'est vraiment important parce que même si ça a été bien fait, bien suturé, il y a beaucoup de surinfections, de désunions, de complications. Moi, ce que je trouve fou, c'est que quand les femmes rentrent à la maison, elles se remettent à faire le ménage comme si de rien n'était, à gérer leur bébé, à gérer les aînés, à s'occuper de leur mec. Enfin, c'est dingue. Donc, en fait, elles se reposent absolument pas. Et en fait, il y a des désunions de cicatrices qui sont liées au fait qu'elles en font juste trop, quoi. Par contre, elles se font jamais plaisir. Elles vont jamais faire un petit tour dehors, ça leur ferait du bien. Mais je les vois faire le ménage, même servir les potes. Putain, les potes, quand ils viennent à la maison, ils sont là dans le canapé, ils attendent. Et je vois la jeune accouchée qui s'excite et tout. Non, il y a quand même en France, il va falloir qu'on change notre regard sur les femmes qui viennent d'accoucher.
Et justement, c'est quoi le délai pour que ça cicatrise? Pendant combien de temps on doit faire attention et accompagner ça de soins?
Souvent, on met des points qui sont résorbables et ces points se résorbent en 10-15 jours, des fois avant. En tout cas, on va se dire que pendant 3 semaines, il faut faire vraiment gaffe et qu'au bout de 3 semaines, si la sage-femme a dit « Ok, non, vous pouvez y aller, faites ce que vous voulez, on fait ce qu'on veut ». Mais pendant 3 semaines, il faut faire gaffe. Il faut vraiment considérer qu'en faisant des mouvements d'abaissement-relèvement, de s'abaisser, etc., sans faire gaffe, vous pouvez étirer la cicatrice et faire que ça cicatrise vraiment mal, quoi.
Et justement, si ça cicatrise pendant 3 semaines, je suppose, mais peut-être que je suppose mal, qu'il faut éviter toute pénétration pendant 3 semaines.
Alors, moi, j'ai pas le droit de vous dire ça, mais je vous dis, franchement, en fait, quand on a encore les points et tout, y a des gens qui se sentent le courage. Moi, je trouve que quand même, c'est un peu prendre des risques, quoi. Mais chacun fait bien ce qu'il veut, mais bon, faites quand même gaffe, quoi.
Est-ce qu'il y a des effets à long terme des épisiotomies, des déchirures? Est-ce que ça peut créer des choses à long terme?
Ouais, alors là, warning, attention, danger, écoutez-moi, s'il vous plaît, pitié. Non, c'est vrai que... C'est-à-dire qu'au bout de 2 mois, cette cicatrice ne doit absolument pas faire mal. Mais ça, je sais pas comment le dire, mais j'y tiens vraiment, que les gens sachent ça. Si ça fait mal, c'est pas normal. Et si ça fait mal, eh ben, il faut consulter. Et si vous tombez sur un professionnel de la santé, gynéco ou sage-femme, qui vous dit oh, « ça va passer, c'est dans la tête », non, en fait, non. Non, 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 ça se prend en charge. Il peut y avoir des massages, il y a des kinés qui ont des super machines qui aident bien, on met de l'acide hyaluronique, enfin, je sais pas, on fait quelque chose, quoi. Mais c'est pas normal. J'ai vu des femmes, là, 2 ans après, qui ont souffert le martyr, qui avaient plus de relations sexuelles. Non, ça, c'est pas possible, hein. Ça me rend malade. Donc, au bout de 2 mois, ça fait mal, c'est pas normal. On trouve quelqu'un qui écoute. Et on fait quelque chose.
Pour aider à ce que ça fasse pas mal, la clé aussi, c'est de rééduquer son périnée.
Voilà, rééduquer son périnée, bien sûr, au bout de 6 semaines. Et puis souvent, pendant la rééducation du périnée, on vous apprend à masser la cicatrice. Parce que ce qui est vrai, c'est que toutes les cicatrices du corps humain, plus elles sont massées, et plus elles sont belles, et plus on récupère complètement... on récupère ces tissus comme ils étaient avant, quoi. Hein, mais je veux pas vous faire peur. Dans la plupart du cas, ça se passe ultra méga bien. C'est pas un sujet. Mais si ça devient un sujet, on s'en occupe et on résoudra le problème.
Et ben moi, ça me faisait très peur de parler épisiotomie et déchirure parce que je trouve ça terrifiant, mais je suis un peu rassurée, donc j'espère que je serai pas la seule.
C'est tout pour cet épisode. Merci Anna et merci à vous tous pour votre écoute. On est toujours preneurs de vos retours, de vos commentaires sur les réseaux sociaux anna.roy. Si vous aimez Tout sur Elle, vous pouvez aussi nous mettre des étoiles, des commentaires sur les différentes plateformes d'écoute. Tout sur Elle, c'est un podcast d'Anna Roy avec moi, Nina Pareja, produit par Acna Productions. Et on vous retrouve toutes les semaines pour un épisode sur la santé physique, psychique et sociale de la femme. Dans le prochain épisode, on reviendra à notre série sur le postpartum. Merci de votre écoute, à très bientôt. Musique, Anno Domini Beats, Like That.